Et bonsoir Paris, bonsoir Livre Paris et bienvenue en direct et en public de notre studio de France Culture dans ce salon du livre ce soir, l'éducation aux médias.
Rue des Écoles, Louise Touret.
Moi avant je ne m'intéressais pas du tout, je m'intéressais pas beaucoup aux informations. Et depuis un moment, depuis que je suis dans la classe média, ben, je m'intéresse un peu plus. Je regarde plus de radio, plus la télé pour regarder les informations et les journaux. J'apprends plus de choses dans le monde que je ne connaissais pas avant. Et ça apporte de la culture. Hein.
Ce que j'ai le plus retenu, c'était comment on reconnaît une vidéo. Genre si c'était vrai ou pas.
Moi, j'ai appris aussi comment reconnaître une vraie source pour les vidéos, pour chercher les bonnes vidéos avec les bonnes informations. Les médias, ce que c'était, ce qu'une information et...
Moi, j'avais retenu parce que c'était une rumeur, enfin comment savoir si c'est une rumeur ou une vraie information. Ensuite, j'ai aussi appris à faire ma propre information.
J'avais vu sur le journal un fake news à propos de Donald Trump, des Russes qui avaient fait à l'élection présidentielle. Genre, c'est des fausses nouvelles, c'est ça?
Avant, s'il y avait un truc qui m'intéressait, j'allais juste regarder ce qui m'intéressait, après j'allais partir. Mais maintenant, enfin, je ne m'intéresse pas autant, mais par exemple, j'arrive à identifier c'est quoi une vraie information et ça m'aide beaucoup.
Est-ce que ça t'a rendu plus curieux?
Oui.
C'était Sérine, Ben Elias et Abou Bakar, élèves de classe média en 6e au collège Gérard Philippe à Paris, 18e arrondissement. On va les retrouver, ces élèves et d'autres élèves, dans un instant. Nous allons parler de comment on enseigne l'esprit critique, le repérage des fake news, comment on prend du recul, on décrypte l'information. Cela s'enseigne en classe aujourd'hui et particulièrement dans les classes médias qui se multiplient depuis quelques années. Il y en a 25 à Paris, 30 dans l'Académie de Créteil, par exemple 58 dans celle de Nantes. Et une partie de ce travail éducatif des classes médias, c'est de faire comprendre d'où vient l'info. C'est le thème de la semaine des médias dans l'école organisée par le CLEMI, le très officiel centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information. Et cette semaine, donc, elle s'ouvre demain, lundi. Mais attention, cette éducation aux médias n'est pas juste un petit plus pour lutter contre le complotisme, c'est enseigner ce qu'est une information et ce que signifie informer. Simple, pas du tout. Il suffit de tendre l'oreille du côté de la parole politique, celle de Jean-Luc Mélenchon, Laurent Wauquiez, celle même du président de la République, qui critique les journalistes et les médias pour comprendre que le sujet n'est ni simple, ni consensuel. Pour en parler avec nous, le journaliste Daniel Schneiderman, pionnier de la pédagogie des médias à la télévision et sur Internet, une enseignante, Laura Mougel, et des élèves. Comme chaque dimanche, la leçon de choses de Sophie Bobert, aujourd'hui avec la célèbre photographe Françoise Huguier qui raconte les images de son éducation en pensionnat au temps de l'Indochine. Rendez-vous à 17h53. Sans plus attendre, mes invités, Daniel Schneiderman, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, vous dirigez le site Arrêt sur Image. À une certaine époque, c'était même une émission à la télévision. À l'intérieur de ce site et même à l'intérieur de cette émission de télé, il y a une rubrique qui s'appelle la classe télé. Et dans cette classe télé, d'ailleurs, il y a des élèves de Gérard Philippe. Pourquoi pour vous, c'est central et depuis si longtemps, l'éducation aux médias, Daniel Schneiderman?
Parce que je pense que c'est pour beaucoup l'école qui doit la faire. Et quand on a commencé Arrêt sur Image à la télé il y a très 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 longtemps, en 95, déjà il y avait l'idée centrale qu'il fallait apprendre, et c'était à l'école de le faire, à décrypter, décoder les images de télévision. Et à l'époque, quand on se demandait où était l'image la plus influente de la télévision, on pensait évidemment aux grandes chaînes de télé, on pensait à TF1, on pensait aux 20 heures de PPDA, On pensait aux images de pub, et c'est sur ces images-là qu'on faisait porter le travail pédagogique en priorité. Aujourd'hui, on est en 2018, tout a changé, c'est-à-dire que l'influence, elle s'est déplacée, elle s'est émiettée. Maintenant, l'influence, c'est pour beaucoup les vidéos virales qu'on trouve sur les réseaux sociaux, sur YouTube, qui passent par Facebook, mais la nécessité, elle restait la même. Je veux dire, il faut que, à l'école, les élèves, à un moment ou à un autre de leur scolarité, puissent apprendre, comme ils apprenaient à essayer de comprendre pourquoi PPDA nous donnait telle et telle nouvelle à 20h. Aujourd'hui, ce qu'il faut leur apprendre, c'est voilà telle vidéo virale qui va leur dire que, je ne sais pas moi, l'exemple qui fâche, aucun Boeing ne s'est écrasé sur le Pentagone. Ou bien que les Illuminati existent et qu'ils sont très importants et qu'ils jouent un grand rôle. Toutes ces vidéos-là, il faut que l'école apprenne aux élèves à les lire. À les lire, c'est très simple. Ça veut dire, cette vidéo que tu as reçue, qu'un copain t'a envoyée, d'où elle vient en vrai, qui l'a fabriquée, est-ce qu'on peut dire qu'il l'a fabriquée, quel est le message que l'auteur, le producteur de cette vidéo essaye de te faire passer. Enfin, vous savez, les questions élémentaires, hein, qu'on se posait sur le 20h de TF1, et Laura Mougel va, j'imagine, être d'accord avec moi.
Il faut
se poser... Sauf que, il y a une toute petite différence. Le 20h de TF1, on savait qui nous l'envoyait. C'était Monsieur TF1. C'était facile, on savait. Là, la vidéo qui va dire les Illuminati, attention, c'est les maîtres du monde, on ne sait pas qui nous l'envoie. Donc, c'est une question supplémentaire, mais ce n'est qu'une question supplémentaire.
On va préciser aux élèves de 6e qui sont dans le public que PPDA, c'était un présentateur très célèbre du journal de 20h, Patrick Poivre d'Arvor, qu'à l'époque,
au siècle dernier, on
regardait, parce que les Illuminati, ça, vous en avez déjà entendu parler. Laura Mougel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeure d'histoire-géographie. On se connaît, hein. Je vous appelle Madame Mougel devant les élèves, mais je suis marraine de votre classe média, d'où un petit peu votre présence ici, parce qu'on travaille un petit peu ensemble. Mm-hmm. Et vous travaillez aussi avec une professeure documentaliste.
Oui, voilà, Claire Cassaigne, qui, elle, avait déjà monté une classe média en 2014, parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, notamment avec les relances de notre ministre. Mais l'éducation aux médias existe depuis pas mal d'années à Paris. Et on va dire que moi, je suis de la nouvelle génération, mais il y a des collègues qui font un très bon boulot depuis plusieurs années. Et notamment la professeure du jeune homme qu'on entendra tout à l'heure.
Que je vais saluer tout de suite. Bonsoir Martin.
Bonsoir.
Martin Maurer, tu es en seconde, je tutoie les élèves, hein, au lycée.
Oui, tout à fait.
Au lycée Montaigne à Paris. Et donc en classe média depuis septembre. Pourquoi tu choisis, toi, de t'inscrire dans cette classe média?
C'était vraiment une volonté d'en savoir plus et d'en découvrir plus sur les médias, comment s'informer notamment. Et voilà.
Et c'est déjà une préoccupation à ton âge. C'est une préoccupation très globale. C'est pas le ministre de l'Éducation, mais le Premier ministre que je vais citer. Il a dit le 23 février, nous allons avec Jean-Michel Blanquer systématiser l'éducation aux médias et à l'information qui permet aux élèves de se prémunir contre les théories complotistes. Nous développerons les outils pédagogiques mis à disposition des personnels. Donc on voit, on redit. Toujours la même chose, c'est essentiel, il faut le faire. Ça avait déjà été dit avec force au moment de la mobilisation de l'école pour les valeurs de la République. C'était après les premiers attentats de 2015. On l'a redit évidemment en novembre 2015. Comment peut-on interpréter, selon vous, Daniel Schneiderman, de toute façon je vois déjà que vous voulez parler, cette manière de toujours redire ce qu'on a déjà dit comme étant tout à fait prioritaire?
Parce que je pense qu'il y a des résistances à l'école. Je pense que, alors vous avez souligné qu'il y a beaucoup de classes médias, qu'il y en a peut-être de plus en plus, mais il y a aussi beaucoup.
Enfin, ça fait assez peu par rapport à.
Il y a aussi beaucoup d'enseignants qui savent pas faire. Il y a aussi beaucoup d'enseignants qui savent pas faire, à qui on n'a pas appris à faire. Il y a aussi beaucoup d'enseignants qui sont réticents. Et c'est vrai que la réticence qu'on connaissait il y a 20 ou 30 ans sur les enseignants avait pas très envie de faire entrer des postes de télé dans leur salle. On la retrouve encore, malheureusement, je pense, avec des enseignants qui n'ont pas envie de faire rentrer l'ordinateur dans leur salle parce que je ne sais pas, une espèce de peur de la dépossession. Donc les réticences, c'est toujours les mêmes. Je voudrais un tout petit peu rectifier ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit tout à l'heure, voilà, hier c'était la télé, aujourd'hui c'est Internet. Voilà, là où doit porter l'effort, aujourd'hui c'est les fake news. Je voudrais pas donner l'impression que les fake news ne sont que sur Internet. Faudrait pas oublier que les grands médias sont aussi des gros producteurs de fake news. Je veux dire, la télé produit aussi des fake news. La télé qui a fait ce, et les plus grandes chaînes, je veux dire, il faut le dire. France 2 avec ce reportage il y a un ou deux ans sur le fameux café,
bar de Sevran,
le fameux café PMU de Sevran, où il avait été affirmé aux 20h que c'était un lieu terrible, un repère d'islamistes, où les femmes étaient absolument interdites, c'était absolument faux. Et on s'en est rendu compte quand plusieurs journalistes, justement, ont fait la contre-enquête, sont allés dans le bar de Sevran et ont vu que, il y avait ni plus ni moins de femmes dans ce PMU de Sevran que dans tous les autres PMU qui, c'est vrai, ne sont pas des lieux majoritairement fréquentés par les femmes. Donc, voilà, je crois qu'il faut continuer à marcher sur les deux jambes. D'un côté, effectivement, les vidéos virales, les fake news, mais ne pas oublier quand même les médias classiques, les médias traditionnels, les médias faits par des journalistes qui ont des cartes de presse et qui sont aussi, à leur manière, des producteurs de fake news, aussi.
Alors, je crois que les élèves ont des questions pour vous. Et on va peut-être commencer par la question 4. Alors, est-ce que vous pouvez regarder la question 4, les élèves, qui est page 4 du conducteur, et me la poser ? Monia. C'est une question sur TF1.
Daniel Schneiderman, pourquoi n'aimez-vous pas TF1 ?
Oh, mais j'ai rien contre TF1. Alors attends, non, mais il faut lui laisser le micro. Attends, garde le micro. Qu'est-ce qui peut bien te faire penser que j'aime pas TF1 ? Raconte-moi.
Quand on avait fait des recherches sur vous, sur Wikipédia, il y avait écrit que vous avez des mauvaises relations avec TF1.
Ah mais alors tu sais ma notice.
Ah ben voilà, on cherche l'information.
Alors Wikipédia, c'est formidable d'être allé chercher sur Wikipédia. Hein, vraiment c'est très bien. Alors tu sais Wikipédia en général c'est pas mal. C'est pas une mauvaise source, mais c'est pas forcément toujours exact. Par exemple, il y a effectivement marqué sur Wikipédia que j'ai eu des rapports un peu compliqués avec TF1 il y a très longtemps. Mais c'est une histoire d'il y a très longtemps, tu sais. Donc voilà, Wikipédia te donne des informations, mais qui sont parfois des informations anciennes et qui remontent à l'époque dont on parlait tout à l'heure, tu sais, quand je te parlais de PPDA, de Poivre d'Arvor et du journal de TF1. Voilà. C'est une vieille histoire, ça a 20 ans, mais c'est encore sur Wikipédia. Donc, faut pas croire aveuglément tout ce que tu lis sur Wikipédia non plus.
Et il y avait une autre question à la suite de celle-là, si un élève veut bien la poser, sinon moi je l'ai devant les yeux. Allez, vas-y. Tout de suite, vas-y, pose ta question.
Oui.
Vas-y, tu peux y aller, je te regarde, tu as la parole, Khadidia. Vas-y, je t'écoute.
Pourquoi avez-vous choisi un collège d'éducation REP ?
Alors, REP, c'est Réseau d'éducation prioritaire.
À la vérité, on n'a pas choisi la classe de Gérard Philippe et de Laura Mougel, c'est elle qui nous a choisi. Puisque je crois, Laura, que vous nous avez envoyé un mail un jour en disant...
J'ai vu passer le mail, l'appel que vous aviez lancé. Et peut-être que j'étais dans les premières à réagir. En tout cas, j'ai une réponse positive immédiatement.
Et du coup, cette question, je vous la pose à vous, Laura Mougel. Est-ce que ça a du sens, particulièrement en réseau d'éducation prioritaire, de faire de l'éducation aux médias ?
Comme partout ailleurs, j'ai envie de dire. Parce que avant, j'étais remplaçante. Les réflexes la non-prise de recul par rapport aux informations lues sur Internet, par exemple, elles sont partout. Peu importe le milieu, peu importe le niveau des élèves. Après, ce sera pas de la même façon, ce sera pas sur les mêmes sujets, mais par exemple, cette histoire d'Illuminati, moi je le retrouve dans tous les collèges que j'ai fait, que ce soit des collèges REP ou des collèges de milieux plus aisés. Donc la démarche finalement d'éducation aux médias, de réflexion sur les sources, sur le contenu de l'information, il est valable partout.
Martin, toi, tu n'es pas en réseau d'éducation prioritaire. Montaigne, c'est plutôt dans les beaux quartiers de Paris. Comment tu t'informes, toi, qui es en seconde ?
Je m'informe avec les réseaux sociaux, déjà, mais aussi quelquefois avec le journal de TF1. Et voilà.
Le journal de 20h. Est-ce que tu lis la presse ?
Surtout la presse sportive.
Donc, la presse, l'équipe ?
Oui.
Est-ce que ces articles, tu les lis sur le site du journal ou est-ce que tu vas les chercher via les réseaux sociaux ? Est-ce que vous échangez avec tes amis, par exemple, sur Snapchat ? Puisqu'on sait qu'il y a des grands médias qui sont présents sur ce réseau social, qui est plutôt celui des jeunes. D'ailleurs, je n'arrive pas à m'en servir. Il y a, par exemple, Le Monde.
Oui, sur Snapchat, il y a l'équipe, il y a plein de médias comme cela. Mais j'achète aussi le journal L'Équipe en papier et je le lis de temps à autre.
Des jeunes lecteurs qui vont encore dans les kiosques. Daniel Schneiderman, sur cette difficulté aujourd'hui de savoir où on s'informe, parce qu'on cherche à savoir ce que c'est qu'une information, mais on ne sait plus tellement où on s'informe. Même nous, journalistes, on s'informe aussi via nos réseaux sociaux, alors peut-être ceux des vieux ou ceux des professionnels. Twitter, c'est un réseau, par exemple, qui sert énormément aux journalistes. Comment s'y repérer ?
C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, en se posant simplement la question de savoir qui est l'auteur. Et moi, ce qui me frappe, c'est quand aujourd'hui, où effectivement beaucoup de jeunes s'informent, comme le dit Martin, sur les réseaux sociaux, quand on demande encore à des enfants ou même des adultes, où est-ce que tu as vu ça ? On a encore, mais vraiment, 4 fois sur 5, la réponse, sur Internet. Comme si Internet, ça existait. Comme si Internet, c'était un média, comme si Internet, c'était une source. Il me semble que le travail à faire de recherche d'auteur, il doit commencer exactement là, exactement au moment où on entend la réponse « Ah oui, je l'ai vu sur Internet. Je l'ai entendu sur Internet. » Alors d'accord, sur Internet. Alors c'était où exactement ? Est-ce que c'était une page Facebook ? Est-ce que c'était un tweet ? Qu'est-ce qu'il y avait marqué en haut de l'écran ? Est-ce qu'il y avait le nom d'un journal ? Est-ce qu'il y avait le nom d'une radio ? Est-ce qu'il y avait le nom d'une télé ? C'est des réflexes élémentaires. Je pense que Laura Mougel, qui a hébergé un certain nombre de classes télé, de classes médias depuis des années maintenant, peut témoigner que vraiment les questions à poser, c'est ultra simple.
Et j'ai envie de dire que c'est les mêmes questions que tous les professeurs de toutes les disciplines posent à leurs élèves dans le cadre du manuel scolaire ou du document qu'ils vont distribuer. C'est le où, quand, qui, quoi, comment. C'est ce qu'on fait
les
depuis des dizaines et des dizaines d'années,
hein.
Ouais, d'identification du document.
On va prendre une autre question d'élève. Khadidia.
J'ai une image plutôt positive des journalistes, mais tout le monde n'a pas le même point de vue que moi. Vous, qu'est-ce qui est votre métier avec les... Partagez-vous ce métier avec les élèves pour changer leur regard sur celui-ci.
Daniel Schneiderman.
Je crois que le journalisme, c'est un fantastique métier. Et en plus, c'est une nécessité, si tu veux. On a besoin de gens pour nous informer, pour nous raconter le monde tel qu'il va, pour faire des enquêtes, pour révéler des scandales, pour interroger les gens, pour connaître leurs conditions de vie, pour savoir comment fonctionnent les hôpitaux, la SNCF, les écoles, comment fonctionne tout ça. On a besoin de gens pour nous raconter tout ça, c'est-à-dire de gens qui sachent aller chercher l'information, aller interroger des gens et ensuite revenir... transformer tout ça en article ou en émission de télé ou en sujet de télévision. Voilà, c'est un formidable métier, mais les conditions dans lesquelles il est effectué font que très souvent, l'information n'est pas très bonne. Elle n'est pas très bonne, elle a plein de défauts. Les journalistes vont souvent trop vite parce qu'on leur demande d'aller trop vite, parce qu'on leur dit, voilà, allez, tu vas faire l'enquête là-dessus et tu reviens au bout de 3 heures et au bout de 3 heures, tu nous fais l'article. Mais non. Des fois, il faut plus de temps. Les journalistes aussi se copient les uns les autres beaucoup, d'un journal à l'autre, d'une radio à l'autre, ils se copient les uns les autres. Quand tu regardes le soir, par exemple, les journaux de TF1 et de France 2, tu te rends compte que très souvent, ils traitent les mêmes sujets dans le même ordre. Ça commence par la même chose, la météo ou je ne sais quoi, ou un sujet de politique étrangère. Et puis ensuite, il y a la déclaration politique du jour. Et puis ensuite, il y a un fait divers, et puis ensuite, il y a une critique de film. Mais c'est très souvent les mêmes hommes politiques, les mêmes films. Ils se copient beaucoup.
Et Daniel Schneiderman, on entend toute cette critique, et ces critiques que vous formulez d'ailleurs depuis longtemps, pour moi qui vous lis aussi, par exemple, dans Libération également. Mais quand on critique les médias traditionnels, on nourrit aussi un sentiment de méfiance et peut-être de défiance envers ces médias traditionnels. Et pourtant, quand on critique le complotisme et les contenus qui circulent en ligne, on dit « Ah ben, il faut vous informer sur les médias traditionnels ». Alors comment vous aussi, Laura Mougel, vous faites pour dire à la fois « Il faut exercer son esprit critique sur les grands médias, mais attention, c'est quand même mieux ». Vous voyez, est-ce qu'il y a une hiérarchie ? Comment on s'en sort avec cette question-là ?
C'est à vous de le dire, Louise Touret. Si vous me faites l'amitié de me dire que vous lisez depuis longtemps ce que j'écris et si vous regardez depuis longtemps les émissions que je fais, à votre avis, est-ce qu'on y arrive ?
Alors moi, j'ai ma réponse. Je pense que l'esprit critique doit absolument s'exercer partout, tout le temps. Cela étant, on voit aussi dans la qualité de ce qu'on lit, dans le produit, si vraiment... c'est comme entre quand un élève copie quelque chose et un vrai article, on voit un peu à quel niveau nous parlent les gens. Mais ça, c'est plus difficile aussi pour des élèves de le déterminer.
Mais vous savez, vous me posez cette question à moi, mais je pense qu'on pourrait la poser à tous les journalistes.
Oui, mais je vous la pose à vous.
Un journaliste politique, par exemple, qui révèle un scandale dans un parti politique, effectivement, on pourrait lui faire le reproche de dire « ben voilà, t'as révélé un scandale, une histoire de pot de vin, une histoire de détournement, donc tu vas nourrir la méfiance envers les partis politiques, donc les gens vont se dire que tous les partis politiques sont pourris ». Ben non, je veux dire, on critique ce qui doit être critiqué, et dans le même mouvement, on réaffirme que le journalisme est une mission essentielle, est un rôle absolument essentiel dans la démocratie.
Mais très vieille critique, puisque... Pendant toute une époque, quand on critiquait la politique, on disait « vous faites le jeu du Front National ». Donc ça revient toujours. Laura Mougel, même question. Comment, quand on critique aussi les médias traditionnels, comment on explique aux élèves que le complotisme, c'est quand même encore autre chose et c'est encore différent? Je trouve que c'est un paysage médiatique très compliqué aujourd'hui, pour des élèves qui sont quand même encore assez jeunes.
Oui, alors, personnellement, nous, on n'a pas, surtout qu'on a une classe de 6e, en classe média, on n'a pas ce discours de critique des médias traditionnels.
Par quoi vous commencez ?
Mais on commence par la base. Qu'est-ce qu'un média ? Qu'est-ce qu'une information ? On en analyse plusieurs, on analyse des unes de journaux, on les fait produire aussi des choses, parce qu'il y a de l'observation, de l'analyse, mais il faut absolument... qu'il y ait de la production pour qu'ils comprennent ce qui joue en coulisses, parce que évidemment on voit que l'aboutissement de la chaîne de l'information. Après, pour les plus grands, parce que j'ai aussi, etc., et ils sont, comme je suis aussi enseignante en histoire, ils savent qu'il y a des vrais complots en histoire, donc c'est extrêmement compliqué. Je leur réponds souvent la même chose, parce que j'ai pas non plus beaucoup d'autres solutions, c'est le croisement des sources, c'est-à-dire de lire le plus possible, en fait, le plus de sites ou de journaux. Et si la même information revient, si c'est lu sur des sites fiables, alors encore une fois, qu'est-ce qu'un site fiable ? On pourrait y passer des heures à... Mais il y a quand même des... Je leur donne des sources qui, pour des enseignants, sont reconnues, sont fiables, des sites... je sais pas, je pense par exemple à l'INSEE. En histoire géo, l'INSEE, il y a des chiffres. On peut en faire ce qu'on veut, des chiffres, mais on peut se reposer aussi dessus. Et voilà, lire beaucoup de choses, les croiser. Je ne sais pas, peut-être que Martin, au lycée, il pourrait aussi compléter.
On pose les questions. Pose la question sans que j'ai besoin de le faire, Martin. Comment, toi, tu as compris qu'on pouvait repérer, par exemple, une fausse information? Comment tu recoupes les sources? Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu as appris à le faire?
Alors, on a appris à vérifier ses sources en regardant un peu sur des sites fiables et aussi différents.
Qu'est-ce qu'un site fiable? Des exemples, pas une définition.
Mais... Je ne sais pas, l'AFP, c'est peut-être fiable. Par exemple, c'est tenu par l'État, c'est public. Et voilà.
L'agence France Presse, à minima, et puis après, lire plusieurs journaux. Mais comme tu le disais, tu n'y pas énormément de journaux papier. Donc je trouve que c'est toujours un peu difficile de dire aux élèves... Croisez vos sources, alors qu'on a déjà du mal à leur faire lire un article d'un journal en entier, Laura Mougel.
Oui, je confirme complètement. Je ne vais pas aller contre. Nous, par exemple, avec les 6e, on a regardé une vidéo sur YouTube et on leur a dit est-ce que cette vidéo est fiable. Et là, on a fait des mathématiques, on a fait de la météorologie, on a fait... qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Je ne sais plus. On a employé plein de moyens divers, plein de pistes différentes pour vérifier si tous les... éléments de cette vidéo pouvaient être plausibles. Et on s'est rendu compte que non. Donc on a fait notre propre vérification en se basant sur des éléments qui n'étaient pas journalistiques, en fait. C'était l'histoire de cet aigle qui soulève un enfant dans un parc de Montréal.
Ah, je ne connaissais pas cette
vidéo. Une vidéo absolument très, très bien faite. Et moi, je me suis fait piéger. Et heureusement, j'ai ma collègue Claire Cassène qui nous a donné toutes les pistes. Oui, ça a été repris d'une autre collègue, parce qu'on s'échange aussi beaucoup.
Daniel Schneiderman, moi, ce que je me dis en écoutant, par exemple, ce complot, c'est que parfois, les élèves nous apprennent aussi des choses. C'est-à-dire que c'est par leur consommation médiatique, les sites qui sont parfois très populaires, mais dont nous, qui sommes vieux, nous n'avons jamais entendu parler, qu'on apprend un peu mieux ce qui circule et ce qui fonctionne.
Bah oui, c'est vrai, mais c'est... d'ailleurs, moi, j'ai appris un tas de trucs en regardant les classes télé qui étaient tournées dans la classe de Laura Mougel. Non, mais un seul exemple, je vous parlais tout à l'heure des Illuminati. Bon, moi, la première fois où j'ai entendu, où j'ai été alerté sur cette espèce de prolifération des vidéos Illuminati, c'est par une enseignante. C'était quelques semaines après l'attentat de Charlie Hebdo. On avait fait une émission Arrêt sur image en invitant une enseignante, vous en souvenez, d'un lycée de la banlieue parisienne. Et là, elle est sur le plateau et elle me dit « Mais la moitié de mes élèves croient aux Illuminati. » Et je veux dire, avant, moi, j'avais pas réalisé. Parce que, comme vous le dites, je suis adulte. J'ai personnellement des enfants, mais ils sont adultes aussi. Donc, je suis plus en contact direct, personnel, avec des enfants d'âge scolaire qui regardent un peu les vidéos que regardent les enfants d'âge scolaire. Donc, j'avais pas réalisé. Et je pense que nous aussi, oui, journalistes, on a à apprendre de la consommation de médias et d'images et de vidéos par les élèves.
Oui, ça permet de se réinterroger sur nos propres pratiques d'enseignants. Quand un élève dit quelque chose qui peut s'apparenter à une fake news ou un complot, bon, de un, ne pas se braquer, c'est pas grave. Faire cette démarche de où est-ce que tu as vu ça, pourquoi tu as pensé que cette info était vraie. Et puis après, revenir vers son cours. Pourquoi cet élève a été amené via mon cours à lire ou penser telle ou telle chose? Et ça nous permet, nous, d'améliorer nos contenus et d'être beaucoup plus précis sur certaines choses aussi.
Et c'est là où on voit que l'école, en fait, c'est quand même aussi un peu une vigie, parce que c'est là où des adultes de différents milieux voient des enfants de tous les milieux. Est-ce que vous vous sentez comme ça, un peu en avance, pour repérer un certain nombre de choses?
Non, j'ai pas du tout cette prétention. Et par contre, je sais que des collègues, je sais pas si on parle de la même collègue, Sophie Mazet, qui a écrit par exemple le manuel d'autodéfense intellectuelle.
C'était pas elle. Une autre enseignante.
Voilà, moi c'est un livre que j'ai lu l'année dernière. Et elle,
manuel
par contre,
d'autodéfense intellectuelle.
D'autodéfense intellectuelle, pardon. Disons que c'est des choses que j'ai apprises à repérer parce que je me suis dit que j'allais les repérer et que oui, en fait, je sais pas si je deviens... Je suis une jeune enseignante, mais il y a des choses qui m'inquiètent un peu, des choses qui reviennent dans mes cours. Je suis aussi enseignante d'histoire, donc il y a une nécessité à réagir sur certains propos qui reviennent beaucoup.
Et qui inquiètent.
Ça peut être
du point de vue citoyen.
Ou ça peut être des choses qu'on retrouve, des bêtises énormes qu'on retrouve dans des copies qui sont pas graves. Mais c'est la fréquence à laquelle elles reviennent qui est plutôt inquiétante, plutôt que le contenu en elle-même qui est très facilement démontable pour peu qu'on prenne le temps d'instaurer un dialogue avec les élèves.
Daniel Schneiderman.
Ouais, non, je voudrais revenir, j'ai un peu l'esprit de l'escalier, je voudrais revenir sur une question que vous posiez tout à l'heure, c'est comment ça se fait que ça met si longtemps et c'est si compliqué pour que, effectivement, la critique des médias entre dans l'école. Alors, je vais vous dire un truc qui va peut-être vous choquer. Mais je suis pas sûr que, hormis quelques périodes d'affolement général et de fièvre, genre après les attentats, après Charlie, etc., je suis pas sûr que le politique ait tellement envie que l'esprit critique entre à l'école. Je veux dire, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'autorité politique, les gouvernements, ils sont composés de responsables politiques, d'hommes politiques, de femmes politiques, qui sont présentés à des élections, qui ont fait des campagnes électorales, qui sont en rapport avec des médias et qui sont en rapport avec des journalistes. Bon, je suis pas certain qu'ils aient toujours follement envie que l'école apprenne aux élèves à avoir un sens critique, c'est-à-dire à se méfier de ces mêmes médias dans lesquels eux-mêmes vont faire des émissions, dans lesquelles eux-mêmes vont faire de la com. Non, mais je vous prends un tout petit exemple. Emmanuel Macron aime beaucoup Cyril Hanouna. Il a le droit.
En tout cas, il va dans son émission.
Il va dans son émission, il lui a souhaité son anniversaire, ils se sont entre-souhaités leurs anniversaires, c'est formidable. Bon, je suis pas certain... Alors, voilà, mais il a le droit, encore une fois. Je suis pas certain que l'autorité politique ait follement envie que, dans les classes, on explique et on apprenne aux élèves à décrypter une émission de Cyril Hanouna, à expliquer vraiment comment elle est faite, à se poser des vraies questions sur la manière dont Hanouna parle d'un certain nombre de questions. Voilà.
Alors qu'il y a plein de choses à dire, comme vous semblez le penser, Daniel Schneiderman. J'en viens donc à une question que je posais en introduction, parce qu'on vit un moment un petit peu particulier dans lequel la critique des médias est portée très fort par des acteurs politiques. Jean-Luc Mélenchon qui parle de parti des médias, Laurent Wauquiez qui dit devant des étudiants que finalement ce qu'il dit aux médias ben, ça veut rien dire, ce qui se, c'est la vérité, eh bien on l'a dit toujours en off, ça comme dit quand même quelque chose de l'information. Et le président de la République qui, il y a peu, en Inde, tensait publiquement une consoeur. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Un président qui verrouille beaucoup sa communication. Donc on est aussi dans un moment où la défiance envers les médias, elle vient du monde politique et de la politique mainstream, pour le coup.
Oui, ben, ça, j'ai envie de vous dire, ça aussi, dans l'idéal, il faudrait apprendre aux élèves à comprendre pourquoi des responsables politiques s'en prennent avec cette véhémence-là aux médias. Très bien, Mélenchon dit le parti des médias. Mais tiens, est-ce que par hasard, ça viendrait pas juste après des enquêtes qui ont été faites sur le financement de sa campagne ? Est-ce qu'il y aurait pas par hasard un rapport entre la sortie de Mélenchon sur les médias et des enquêtes journalistiques sur le financement de sa campagne ? Macron s'en prend très violemment, vous l'avez dit, à une journaliste dans une conférence de presse. Tiens, mais par hasard, est-ce que ça aurait pas un rapport avec la question que cette journaliste vient de poser sur la visite soi-disant privée de Macron au Taj Mahal en Inde, où effectivement il y a une certaine ambiguïté, si vous voulez, sur le caractère de cette visite qui était privée, mais il a quand même emmené des photographes et des journalistes avec lui. Je pense que les offensives, si vous voulez, des politiques par rapport aux médias, elles s'expliquent. On est dans un rapport conflictuel entre les deux. Et ça aussi, alors je sais pas si c'est en quatrième, en troisième, c'est peut-être un peu jeune la quatrième et la troisième, peut-être attendre la première ou la terminale, une fois qu'ils auront bien compris le jeu des institutions politiques entre eux, pour en faire aussi une matière de cours.
Ça commence au collège, à parler un peu de l'opinion publique, les médias, le pluralisme des médias, mais je pense que oui, ce qui est...
On va poser la question à Martin qui est en seconde. Quand on entend des politiques qui critiquent les médias, ou des journalistes, qu'est-ce que tu comprends, toi ?
Pas grand chose, mais on peut dire par exemple que on peut dire que les médias c'est le quatrième pouvoir, parce que ça a une réelle influence sur les choix des personnes et des votants par exemple.
Donc un contre-pouvoir.
Voilà, en quelque sorte.
Laura Mougel,
oui,
est-ce qu'il a bien
pas Non, mais c'est vrai que pour revenir à ce que vous disiez avant, j'ai l'impression qu'il y a un désir d'esprit critique là qui est inscrit dans les programmes, mais un certain esprit critique républicain qui va de pair avec l'enseignement moral et civique. On a changé le nom, donc qui est de lutter contre toute forme d'obscurantisme. Après, je rejoins Monsieur Schneiderman dans l'idée que on veut pas forcément d'un esprit critique qui permettrait de remettre en cause le fonctionnement de nos institutions, ce genre de choses. Donc c'est vrai que où s'arrête notre travail d'enseignant par rapport à l'esprit critique ? Parce que nous, on est quand même...
C'est une question morale que vous vous posez pratiquement, Laura Mougel.
Oui, j'en ai parlé avec mon inspectrice, par exemple, récemment. Enseigner l'esprit critique, très bien. Moi, où je dois m'arrêter en tant qu'enseignante, quand ça parle de mon supérieur hiérarchique, du ministère, de l'État, qui m'emploie.
C'est une question que vous avez posée ?
Je me suis déjà.
Parce que vous devez aussi agir comme fonctionnaire de l'État. Enfin, ça fait partie des choses qu'on vous demande.
Dans mes missions, ouais. Oui. Donc, parfois, je me dis bon, là, on a des sixièmes, donc je suis pas encore dans ce questionnement-là. Mais si un jour j'ai un public comme Martin, j'aimerais beaucoup savoir comment sa prof elle arrive à équilibrer tout ça.
Et moi, je trouve que c'est très important ce que vient de dire Laura Mougel. Parce que très vite, alors peut-être pas en troisième ou en quatrième, mais très vite sur des questions politiques, quand on arrive en première ou en terminale, vous allez avoir des élèves qui se posent cette question. Oui, mais toi, la prof, t'es dans l'éducation nationale, t'es payé par l'État. Qui nous dit que t'es, qui nous garantit ton objectivité, etc. Et le fait que des enseignants fassent état publiquement de cette difficulté et de cette difficulté à se situer que vient d'exprimer Laura Mougel. Je trouve que ça renforce énormément la crédibilité de ce que vous pouvez dire en classe. À partir du moment où les élèves sauront que vous aussi, vous vous posez cette question-là, la question de vos propres limites, jusqu'où je dois aller dans l'esprit critique par rapport aux institutions républicaines ? C'est une question fondamentale. Je ne dis pas qu'il faut forcément y répondre, mais au moins savoir que vous vous la posez, que c'est une question légitime. C'est un formidable renforcement de crédibilité.
Dernière question, enfin, je ne sais pas si c'est la dernière, on va voir. Ce matin, je lisais dans Mediapart un papier de l'écrivain et chercheur Christian Salmon. Vous savez, c'est celui qui a popularisé en France le concept de storytelling, qui consiste à créer du récit pour faire adhérer le public à sa vision, sa version aussi. Des choses, peut-être, ça a été très utilisé par des politiques, y compris par exemple Barack Obama aux États-Unis. On écrit des livres, on raconte son histoire, ça peut être sur un grand, un temps long ou un temps plus court, sur des petites anecdotes ou des grands événements. Aujourd'hui, Christian Salmon dit on est au temps des violentes controverses. C'est l'ère du clash. Et ce clash, on le voit, ce sont des médias qui se confrontent. Alors, ça passe beaucoup par les réseaux sociaux. Ce sont des contradictions très virulentes, des politiciens aussi très virulents. Comment expliquer ça aux élèves ? On voudrait dire, oui, les médias, c'est l'information, on cherche où est l'info, quand on voit que finalement, il y a des sujets comme la guerre en Syrie. Et là, on voit que ça devient très compliqué, avec des prises à partie très violentes sur un sujet, d'ailleurs, très grave, Laura Mougel.
Comment expliquer ça ? C'est très complexe, je me rends compte que moi-même, je ne peux pas... Tout n'est pas clair, je suis très humble par rapport à ce que je fais avec... avec mes élèves, sans aller sur ce sujet de la guerre en Syrie ou quoi, il est vrai que nous, on a envie de se pencher sur ces médias, ces réseaux sociaux, sur cette culture du clash. Alors, je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais pour des petits, des élèves du 6e, avant de se lancer dans le contenu, on parle d'abord de la forme. Et produire un certain type de médias va leur permettre ensuite de mieux analyser plus tard ou sur des sujets différents ce qui, de mettre en relation ce que eux vont pouvoir produire. Je pense notamment là à un contenu médiatique qu'on va créer bientôt, qui sera très certainement sur un réseau social et qui va leur permettre ensuite de faire des parallèles avec ce qu'ils liront eux plus tard et de prendre de la distance par rapport à cette violence du contenu médiatique.
C'est bien le dernier endroit où on prend de la distance en ce moment, les réseaux sociaux. Daniel Stederman, il nous reste une toute petite minute.
Pour répondre à votre question sur le clash,
oui,
qui est très intéressante, le clash, ce n'est pas que les réseaux sociaux. Hein. Non, prenez un exemple très simple, l'émission On n'est pas couché de Laurent Ruquier. Quand vous la regardez à la télé, c'est une bonne émission. On y discute en longueur, les auteurs de livres, les écrivains sont interrogés en longueur, les échanges sont toujours de très bonne tenue, etc. Qu'est-ce qui en arrive sur les réseaux sociaux ? La minute ou la minute 30 où effectivement les invités et les chroniqueurs se mettent sur la figure, si vous voulez. Mais qui a décidé ça ? Ce n'est pas les réseaux sociaux qui ont décidé ça. C'est la production d'On n'est pas couché qui a isolé les moments les plus clash de l'émission, si vous voulez. Parce qu'elle sait que maintenant, sur les réseaux sociaux, on est dans l'économie du clash. Donc, pour faire de la pub, pour que les pubs rapportent et pour faire de la vidéo vue, il faut mettre plutôt la minute violente que l'heure de discussion intéressante. Donc, ça aussi, ça se montre aux élèves. Les élèves, vous leur montrez une demi-heure de discussion super intéressante et ce qui en ressort sur les réseaux sociaux, vous savez, ils comprennent, hein.
Et c'est bien un sujet d'éducation aux médias. Voilà, un cas pratique de choses qu'on peut dire aux élèves. On passe tout de suite à la rubrique finale de l'émission. On passe à toute autre chose, la leçon de choses. Et on change d'univers, on change de continent, on part en Indochine avec la photographe Françoise Huguier qui raconte comment son œil s'est aiguisé grâce au cinéma, avec au passage une référence à un immense film sur l'école. Il faudra le montrer à vos élèves, Laura Mougel, Graines de violence.
Mon père était directeur de plantation de caoutchouc. Donc moi je suis née en France, et puis après on est reparti en 45. Et moi j'ai vécu donc... c'était l'axe Indochine, hein. Donc lui il était directeur d'une plantation au Cambodge, mais j'étais en pension à Dalat, chez les bonnes sœurs, aux oiseaux. Et les vacances, je retournais sur la plantation. Donc j'ai eu de la chance, moi aussi, d'être dans une pension où c'était un peu particulier. Mais on était dans un parc énorme. Et moi, je me souviens qu'un soir, on était dans le dortoir, puis tout d'un coup, on a vu un regard, deux yeux, comme ça, qui nous regardaient. On s'est levé, là, avec mes copines, on a vu, c'était une panthère. Voilà.
Mais ça vous plaisait, ça, l'idée d'être en pensionnat?
Bah oui, parce que c'était un pensionnat plutôt... Enfin, les bonnes sœurs étaient des bonnes sœurs intelligentes, quoi. Et je suis restée en pensionnat jusqu'à l'âge de seconde, jusqu'en seconde. Donc moi, ça ne me gênait pas, parce qu'il y a toujours un moyen d'échapper. Toujours, bah oui.
D'échapper à l'autorité?
Échapper à la discipline, oui, toujours.
Mais quel genre d'élève étiez-vous, Françoise Huguier?
Alors, j'étais... curieuse, insolente, chipie, mais en même temps, je venais toujours la défendre. Puis il y a toujours dans la classe, il y a toujours quelqu'un qui est la bête noire. Et moi, je prenais toujours la défense de la bête noire. J'allais à contre-courant, voilà. Donc j'étais réputée pour ça.
Est-ce que vous étiez déjà, Françoise Huguier, une enfant de l'image? Est-ce que vous aimiez regarder les journaux, la presse, les photos de l'époque?
Non, pas du tout, mais mon père nous amenait beaucoup au cinéma quand on est rentré en France. Moi, j'adore le cinéma. Mon influence a été beaucoup cinématographique, hein, de mon œuvre.
Mais au départ, adolescente, c'est cinéaste que vous aviez envie de faire?
Adolescente, en pension, par exemple, on avait, par exemple, Graines de violence. Vous voyez ce que c'est que ce film? Eh bien, les bonnes sœurs nous l'ont passé. Parce qu'elles passaient, par exemple, les tricheurs. Vous vous souvenez de ce film, Tricheurs? Elle avait été les voir, et parce que c'était le début de la jeunesse dorée, qui faisait n'importe quoi, la drogue, l'alcool, etc. Et alors, tout le monde parlait de ce film, donc nous, évidemment, on voulait tous aller le voir. Elles avaient été le voir, et quand on est revenu du week-end, et elles ont dit, je suppose que tout le monde est allé voir Les Tricheurs. Alors, non, non. Et en fait, elles disaient, nous, on a été le voir, on va vous dire ce qu'on en pense, etc. Elles étaient malines, hein. Ouais. Très ouvertes.
En 2014, Françoise Huguier, vous avez publié votre autobiographie chez Sabine Pespeiser, qui a pour titre « Au doigt et à l'œil ». C'est vous qui avez trouvé le titre?
Oui, écoutez, un appareil photo, c'est au doigt et à l'œil. Hein. C'est que le doigt, c'est quand vous appuyez. Et alors, c'est une expression que j'aime beaucoup. Hein. Et l'œil, c'est l'œil du photographe, quoi. Parce que l'œil du photographe, il n'est pas que dans le petit viseur. Hein. Il est bien avant, hein. D'ailleurs, il y a Cartier-Bresson qui disait un truc vachement bien. Et il disait, la meilleure photo, et moi je l'ai constaté, c'est dans votre tête encore.
Et merci à mon attaché d'émission Marie Dalquier, à Somanina à la réalisation, à Martin Guénard et Élise Leu à la prise de son. La semaine de la presse et des médias dans l'école, c'est toute la semaine sur France Culture, dans la fabrique de l'histoire, au pied sur terre, dans Par les temps qui courent, avec des élèves aux côtés de Marie Richeux. Et enfin, Caroline Broyer consacrera sa fabrique médiatique à l'éducation aux médias samedi prochain. Quant à Rue des Écoles, je vous retrouve dimanche prochain à 17h15, ou bien sûr, quand il vous plaira, en podcast.